Intérieur. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir et bienvenue, bienvenue à Lausanne, à l'ombre de la cathédrale. Il y a encore un peu de circulation ce soir à 23h, il fait frais évidemment, et j'ai un rendez-vous avec un des plus jeunes romanciers de Suisse romande. Il vient de faire paraître aux éditions Olivier Moratel Au point d'effusion des égouts, le titre, voilà, il vous dit rien, mais Quentin Mauron, s'il ne vous dit rien, il vous dira beaucoup plus tard. C'est un jeune romancier qui a été remarqué par notamment des critiques, des gens qui aiment la littérature, et c'est une écriture très particulière, c'est une écriture riche, intéressante, moderne, qui ne ronronne pas. Bref, c'est une écriture dont j'aimerais vous parler et vous entretenir. Et Quentin Mauron n'a pas de vraie maison. Ça, il en a peut-être une ou deux, mais enfin, c'est dans son shtam qu'il nous invite au Café de l'Évêché à Lausanne. Et ben, c'est là que je le rencontre. Donc, j'entre dans ce restaurant. Nous ferons peut-être un petit tour dehors, finalement, autour de la cathédrale, s'il est d'accord. Je rentre dans ce restaurant où il y a évidemment encore ce soir du monde. C'est un shtam d'étudiants. C'est un lieu où on rencontre ses copains, où il rencontre les siens. Et Quentin Mauron est à une table. Bonsoir, Quentin.
Bonsoir Daniel.
Vous n'êtes pas obligé d'hurler, hein.
Ah merde, ouais, mais c'est parce que c'est l'ambiance du bistrot, la bière et tout, ça me monte à la voix.
Alors très bien, Quentin, je vous connais évidemment un tout petit peu, vous êtes chez un éditeur que je connais lui aussi, et puis je trouve ce livre que j'ai lu en manuscrit et pour lequel, merci beaucoup, je suis assez partie prenante parce que je trouve qu'il y a là un regard sur la vie, sur le monde. Mais on va s'y atteler tout au long de cette émission, Quentin. Vous avez 22 ans. Alors, 22 ans, étudiant en littérature, c'était quoi votre parcours avant et pourquoi écrire aujourd'hui?
Alors, ça fait beaucoup de questions à la fois. Je vais essayer de rester un petit peu systématique puisque vous avez dit je suis étudiant. Bon, déjà, j'ai 22 ans, c'est vrai. Alors, on m'a dit que c'était jeune. Moi, je crois que c'est peut-être plus par méconnaissance, parce qu'il y a des gens qui écrivent, qui ont mon âge, qui publient des livres, qui sont même plus jeunes. Donc, finalement, ça, je crois que c'est pas vraiment quelque chose de si incroyable que ça. Mon parcours, maintenant, il s'est fait sur deux continents. Je le raconte dans le bouquin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, parlant des États-Unis, j'ai pas l'impression d'aborder une destination exotique, mais de cancaner, de regarder un peu ce qui se passe chez le voisin, vu que je suis canadien, et de glisser un œil comme ça dans la croisée de l'autre.
Alors vous êtes canadien. Canadien comment? Pourquoi? Et francophone ou anglophone?
Francophone, c'est-à-dire, c'est difficile de me dire québécois, on me dira qu'il manque certaines propriétés langagières. Alors bon, bah, j'ai été naturalisé, quoi. Mes parents ont émigré au Canada, quand j'étais tout gamin, j'ai vécu une dizaine d'années. Ensuite, je suis revenu en Suisse, je suis reparti. Il y a eu un peu des va-et-vient, comme ça, toute une série de va-et-vient qui ont, je pense, qui font que je suis aujourd'hui. J'ai fait le compte, d'ailleurs. J'ai autant vécu en Suisse que sur le continent nord-américain. Donc c'est quelque chose. Ce sont deux univers que je connais finalement passablement bien. Alors maintenant, je suis en effet, comme vous l'avez dit, étudiant à l'université de Lausanne. Bon, c'est 3 ans de bachelor auquel je m'attelle. Lausanne n'est pas une finalité pour moi. Je risque de repartir après, déjà l'année prochaine vraisemblablement sur le Canada, peut-être le côté anglophone que je connais aussi bien, parce que j'ai vécu aussi quelques temps sur l'île de Vancouver, au nord de Victoria, à proximité d'une réserve d'Indiens. Donc c'est peut-être là que je vais aller, c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être donc tout est ouvert. Je crois pas être tellement le genre, bah, vous avez dû le remarquer en lisant le bouquin, je crois pas être tellement le genre sédentaire. Alors je suis peut-être pas un nomade dans le sens que je n'ai pas pris mon sac sur mon dos et je suis parti me balader au bout du monde, c'est vrai. Après, c'est vrai que je m'installe rarement durablement.
Bon, vous installez dans des Jaguars, le cul au sec, chez Clara, votre cousine. Vous découvrez Los Angeles dans ce bouquin. C'est extraordinaire le regard que vous avez. Mais alors pourquoi l'écriture ? Parce qu'évidemment, la littérature semble vous intéresser beaucoup. Et on reviendra sur l'absence de clichés de votre travail. Parce que ça, c'est extrêmement rare. Quand on est très jeune, on a envie d'écrire comme machin truc, Kerouac, Balzac, que sais-je. Mais là, pourquoi l'écriture ? Quel besoin aviez-vous de retourner aux États-Unis, de partir, de fuir et de retrouver finalement ensuite à nouveau le continent européen et de le raconter ?
Oh merde, je peux dire quelque chose qui n'est pas très vendeur ? Qui n'est pas très commun non plus. Je crois que j'ai écrit ce bouquin parce que j'avais quelque chose à prouver à quelqu'un, simplement. C'est pour ça que j'ai écrit. Et après, maintenant, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit le deuxième. Ça, c'est déjà une question plus délicate.
Il y en a un deuxième.
Oui, là, le deuxième est déjà en cours. Je ne veux pas dire avancé parce que il finira quand il sera. Il devra être fini. J'ai aucune
échéance.
Échéance, j'allais dire deadline, mais c'est mon côté anglophone peut-être. Donc le suivant en cours. Là, je ne sais pas vraiment pourquoi celui-là je l'écris. C'est difficile. Après, on parle d'un besoin, de ci, de ça, d'une muse qui nous rentre dans le corps, qui nous fait péter des phrases. Mais moi, je crois que c'était quelque chose à prouver à quelqu'un. C'était vraiment par c'était peut-être un peu sotte vanité, comme ça.
Ah, joli. Une vanité. On ne sait d'où vous venez. On comprend que vous êtes à la fois suisse émigré au Canada avec des papiers canadiens. Mais de qui êtes-vous le fils ? Parce que c'est important dans votre famille. Vous avez un père qui n'est pas du tout banal, qui a un destin assez particulier.
Oui, mon père est artiste, artiste peintre, connu, c'est vrai, plus ou moins internationalement. Donc c'est vrai que j'ai déjà eu des encouragements, rien qu'au niveau de l'écriture, c'était déjà on m'a jamais freiné, on m'a jamais dit, mais maintenant, pense à l'avenir. On m'a pas dit ce que je dis dans l'épilogue du livre, par exemple. On m'a jamais demandé de penser à la suite, de penser concrètement à maintenant embrasser une carrière. Ça, pour ça, j'ai beaucoup de chance.
Vous préférez embrasser d'autres choses, hein?
J'embrasse pas simplement de choses, mais vous aussi.
Oh la vache! Il est rigolo ce gamin. En plus, il est joli. Puis il est gentil. Mais il est de temps en temps perfide. Alors, vous regardez les États-Unis quand vous êtes là-bas et vous les regardez, mais vraiment de travers. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. L'arrivée à Los Angeles et la chaleur. Vous décrivez ça d'une manière non clichée, mais formidable avec des mots. Alors j'ai dit des mots parce que vous, les phrases, c'est pas des phrases. Alors concrètement, je dirais même une chose un peu antilittéraire, mais qui est très forte, c'est que les phrases, quelquefois, se suivent et n'ont qu'un mot chacune.
Oui, alors c'est vrai, je crois que c'est bien que vous releviez que c'est pas très littéraire, c'est vrai, alors c'est pas des très belles phrases, c'est plutôt une espèce de bric-à-brac d'émotions qui tombe un peu, qui cascade un peu comme du gravier sur un toit de tôle, et puis ça donne, je crois, c'est ce qui donne ces impressions, peut-être d'étouffement par moment quand il s'agit de chaleur, et puis d'explosion quand il s'agit d'autres sentiments. Je crois que le sentiment vient aussi de cette friction des mots les uns avec les autres, des phrases qui s'emboîtent très rapidement, qui se télescopent, qui font des espèces de bourrelets comme ça de matière qui finalement donnent quelque chose, je crois, d'assez intéressant.
Alors, vous arrivez du Canada, mais franchement, il n'y a pas une différence complètement hallucinante entre le Canada francophone ou anglophone et Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie pour raconter ces sensations complètement un peu dégoûtées ?
C'est vrai qu'il y a du dégoût. Bon, d'une part, c'est vrai que je parle des États-Unis, mais je fais pas seulement un portrait des États-Unis. Je crois qu'on aurait tort de se sentir propre, parce que j'ai décrit là-bas, ben nous on sent ouf, il nous a épargné. Je crois que ça rejaillit, ça bave quand même sur le lecteur où qui se trouve. Et donc. Peut-être, je sais pas quelle est cette fascination. Après, je me suis trouvé aux États-Unis. Peut-être que si je m'étais trouvé en Amérique du Sud, ou si je m'étais trouvé, j'ai rien contre d'autres pays, si je m'étais trouvé en Corée, ou si je m'étais trouvé au Japon, j'aurais peut-être décrit la société japonaise, ça aurait peut-être donné un excellent livre. Peut-être que les mots n'auraient pas été les mêmes, les jugements non plus. Peut-être qu'il y aurait certainement eu des différences, mais je crois pas que. avoir une fascination pour les États-Unis. Alors, je les ai vécus, je suis resté là-bas, j'avais dit en partant que j'allais faire un bouquin. Alors, c'était parce qu'on me demandait ce que j'allais faire. Alors, on a dit, je vais écrire un bouquin là-bas. Ça sonnait bien, et puis c'est vrai que, ça plaisait. Alors, après, j'ai commencé, les deux premiers mois, c'est sympa, j'en ai pas foutu une, je me baladais par-ci par-là avec de la famille là-bas qui est pas aussi terrible que ce que je l'ai dit. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à recevoir des mails très sympathiques. Ton bouquin, c'est bientôt fini, ça avance là, tu reviens bientôt, il sera publié. Merde, j'avais pas une ligne, je savais pas du tout sur quoi j'allais causer.
Et vous deviez être loyal.
Ah bah je devais être loyal, ouais. Bah je m'étais engagé. Après je me suis dit, là j'ai encore l'air con une fois de plus. Alors je voulais quand même pas trop me traîner dans la bouche. C'est quand même propre. Alors je me suis dit, là on va quand même mettre un peu la main à la pâte. Alors j'ai commencé à recueillir des impressions. Au début c'était vraiment des petites impressions de voyage. Et puis après ça a commencé à prendre une belle gueule. Ça c'était au mois de février, février 2009 je pense. Et puis ça a commencé à prendre une certaine tournure. J'ai continué à bosser le truc. Et puis 2010 pardon. Et finalement ça a donné quelque chose que je me suis dit, tiens là il y a quand même il y a autre chose quoi, c'est pas juste des petites impressions, c'est pas juste un souvenir, c'est comment un bouquin se dessine. Alors j'ai fait des démarches pour être auprès des éditeurs qui m'ont pour la plupart refusé ou pas répondu. Un s'est intéressé, il m'a fait travailler le texte, il m'a demandé de pousser un peu le truc, je l'ai fait, ça allait toujours pas. Et puis j'avais entre temps, après j'ai rencontré Pierre-Yves Lador, j'ai rencontré Olivier Moratel qui ont beaucoup accroché et puis qui ont après pris ce texte et qui ont dit là il y a quelque chose qui ressemble à un roman, c'est un bouquin qui n'est pas seulement écrit mais qui peut être lu, donc c'est déjà quelque chose. Et puis je crois que c'est comme ça que le livre est venu pendant ce voyage, mais plus dans l'esprit du Paris.
Alors moi j'aime bien votre manière d'écrire, j'aime bien votre manière directe de parler, qui est celle des jeunes d'aujourd'hui. Alors on y reviendra tout à l'heure. On écoute Entre nous, la route, c'est David Delabrosse. Vous connaissez David Delabrosse ?
Pas du tout, mais le nom me fait beaucoup rire, je te dis.
Oui, le nom me fait rire aussi. C'est un artiste français qui est un complice de Yann Tiersen. C'est une jolie chanson, Entre nous, la route.
Entre nous, un rideau de fer, la grande muraille de Chine, d'imperceptibles frontières que notre pudeur dessine. Entre nous, de cette affaire de connivence, de signes indicibles. Entre nous, la route n'est pas la plus simple, je crois, et cette route longue. Entre nous, la route. des tours, franchis enfin le lourd premier pas. Moi qui marche là-bas, moi qui marche vers toi, qui sans détour franchit enfin le lourd premier pas jusqu'à toi.
Intérieur, une émission de Daniel Fazan.
On est toujours au Café de l'Ébéché à Lausanne pour faire un intérieur dans un lieu qui n'existe que parce que c'est un shtam, parce que c'est un lieu de copains. Votre chez-vous, je devrais quand même vous demander, quant à Mouron, pourquoi vous ne m'avez pas invité exactement chez vous? C'est quoi chez vous? C'est où?
Bon, j'ai déjà pas passé l'aspirateur depuis un certain temps. Et aussi, ben, je vis à moitié chez mes parents, mais je dors dans le bureau de ma mère pour l'instant. C'est encore un peu brinque-ballant. Je voulais pas vous inviter dans le bureau de ma mère, même si je sais très bien, il y a sûrement des choses belles à voir, mais... Enfin, c'était pas chez moi, donc c'était pas chez moi, ni en Tudiverdon où habitent mes parents. Là, je loue une chambre aussi sur Lausanne, du côté de Prix, et c'est très sympathique. Mais c'était, c'est pas quand même, c'est quand même pas chez moi. Donc c'est, même si je m'y sens très bien, je pouvais pas. Je me suis dit que ça avait pas vraiment de sens. On aurait été les deux assis sur mon lit. On a discuté de machin au milieu d'une tonne de paperasse et de poussière, ça aurait pas eu tellement... Puis l'évêché, surtout que c'est un bistrot où je vais quand même depuis... Bah, j'ai fait mon gymnase à la cité, c'est un bistrot où je vais souvent. Depuis 6 ans maintenant, 7 ans, je me fous des mines par ici, donc je me suis dit que...
Pardon, j'ai pas compris. Je me fous des mines par ici?
Ou je me colle des races, enfin je me...
Pardon, je me colle
des je me saoule ici.
Ah, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, bon, y a toutes sortes d'expressions. J'en ai pas mal forgé aussi moi-même. Se coller une pieuvre, par exemple, c'est une expression que j'ai inventée qui rend bien son office. Et, ou d'autres, encore d'autres extrêmement autocouleurs. Donc c'est par ici que je viens picoler. Et aussi juste là-bas aux tables, on pourrait faire un tour tout à l'heure, qui est juste près du gymnase. Quoi. J'aime beaucoup.
Dans la nuit, un truc dehors?
Bien sûr, mais on y est souvent resté. Alors le dimanche soir, c'est un petit peu plus, un peu plus anecdotique, mais le vendredi et le samedi soir, ouais.
Alors, Quentin Mouron, vous écrivez, vous étudiez surtout la littérature à l'Uni. Bon, on essaye de lire un maximum de livres, on analyse, etc. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça représente comme travail, et je sais surtout que ces étudiants sont là à boire des verres, donc j'imagine que ça doit être extrêmement torturant et difficile. Mais ce que vous parvenez à faire, vous, dans votre écriture, c'est d'éviter tous les clichés. Et jamais je me suis dit... Ah, le mec, il tombe dans le panneau. Jamais, vous l'évitez chaque fois, la cible. C'est quoi, une stratégie ou c'est une manière de penser?
Je vous remercie. C'est pas une stratégie, c'est naturel. Alors, si on a beaucoup lu Kerouac, par exemple, on risque de tirer sur le Kerouac. Moi, j'ai pas lu Kerouac. Si on a beaucoup lu, je sais pas qui, on risque de plagier, je sais pas qui. Moi, j'ai pas énormément lu. Alors finalement, bah, j'écris un peu instinctivement. Ça gicle comme ça. Et puis, après, il y a peut-être aussi... Mais je crois pas qu'il y ait une recherche, il n'y a pas une recherche incroyable. J'écoute aussi, alors on écoute souvent, beaucoup d'écrivains font leur machin en écoutant de la musique. Alors c'est vrai qu'ils écoutent, je sais pas ce qu'on peut écouter, du classique par exemple. Moi j'écoute pas mal d'électro, j'écoute des trucs un peu expérimentaux, j'écoute des trucs complètement barges. Alors peut-être ça m'aide aussi à déconstruire la phrase et à faire des trucs qui se font pas d'habitude.
Oui, alors il y a notamment... une des incontournables obligations de la langue française de dire « je ne suis pas tranquille », c'est-à-dire de mettre la négation « je ne suis pas tranquille ». Et lui, le Quentin Mouron, bah, il s'en fout. Alors il dit « je ne suis pas tranquille, j'en ai marre, machin truc, il n'est pas ». Et voilà. Mais ce n'est pas du tout gênant parce que les idées ne sont pas convenues, elles ne font pas jeune pour faire jeune.
Bon, avant vous avez dit vous tombez pas dans les clichés, vous n'avez pas mis de négation non plus.
Non, c'est vrai que c'est du langage écrit mais qui est parlé. Alors évidemment dans la vie de tous les jours c'est un peu pointu et pontifiant que de mettre toutes les négations et de temps en temps c'est vrai que je les évite pour éviter ce côté pompeux. Mais vous dans l'écriture vous ne recherchez pas l'écriture, vous cherchez la langue dite, la langue orale.
Pas toujours. On m'a fait remarquer déjà que je mettais pas systématiquement la négation. Des fois, je la mettais. Parce qu'évidemment, si je mettais plus de négation, ça serait un espèce de truc. J'aurais dit, bah maintenant, je mets plus de négation, je mets plus de pronoms, je mets plus de ci, je mets plus de ça. J'utilise pas la lettre E. Bon, on peut faire des choses comme ça, mais là, c'était pas du tout le but. Ça vient naturellement. Il y a des fois des choses où des moments un peu hargneux dans le bouquin où la négation tombe d'elle-même. Puis après, dans un moment plus réfléchi, une réflexion, quelque chose qui me traverse la tête, bah là, c'est un peu plus posé, un passage tendre, et la négation revient. Et puis, c'est aussi une question de rythme de la phrase. Je pense que pour que ça soit porteur, ça vient naturellement, quoi.
Vous êtes très rythmé. D'ailleurs, vous tapez cette table, vous la frappez, mais comme si vous avez fait quelque chose et que vous étiez vengeur, Quentin Mouron. Alors, ce qu'il y a, c'est votre regard aussi sur les États-Unis. Vous en avez rêvé de ce pays pour en être aussi déçu ?
Non, pas du tout. J'ai peu rêvé. Moi, je suis d'une génération, c'est pas les États-Unis des années 50. Moi, je suis d'une génération des États-Unis d'après l'Irak. Je suis des États-Unis d'après la guerre, des États-Unis des grandes manipulations, des spéculations pétrolifères. Alors, j'ai pas vraiment rêvé des États-Unis. D'ailleurs, j'avais la première fois que je suis allé aux États-Unis, bon, pas que j'étais tout gosse, j'allais à Disney World, c'est pas pareil, mais dès que j'ai été en âge de réfléchir, j'étais très méfiant, j'avais très peur d'aller aux États-Unis. C'était un pays qui me. À cause de toutes sortes de choses, à cause de la peine de mort, à cause de. Tout ça, ça m'effrayait beaucoup. La première fois que je suis vraiment entré consciemment aux États-Unis, j'avais 15 ans, 16. Et là, ça me foutait les boules, ouais, ça me foutait les boules, ça me fout toujours un peu les boules d'ailleurs. C'est pas un. Pays qui m'est très sympathique, c'est un pays je sais pas si j'y... oui peut-être que j'y vivrais, mais c'est-à-dire que c'est pas un bloc les États-Unis, c'est aussi quand vous êtes dans le désert, vous n'êtes pas aux États-Unis. Alors on peut bien, il y a peut-être un cadastre, mais un cadastre, on sait très bien que ça fait pas tout. Moi, où j'étais, ce que j'étais sur un rocher, perché, à Joshua Tree, en fumant une cigarette, au coucher de soleil, en écoutant Johnny Cash, pas encore aligné 2-3 clichés pour me venger. J'avais pas du tout l'impression d'être aux États-Unis. Et puis même quand j'y étais, c'est... oui, alors le dégoût, mais il y a peut-être un dégoût qui vient, mais c'est pas un dégoût, je crois, qui serait de l'ordre d'une déception. C'est plutôt, non, je crois que je savais où je mettais les pieds. Et d'ailleurs, c'est pas un... tout n'est pas affreux non plus. Je tiens quand même à rectifier.
Alors, mais vous arrivez surtout dans une ville où tout d'un coup, vous allez quand même à Rodeo Drive. Vous allez dans une rue ou dans Hollywood, vous allez dans des endroits de rêve. Vous y rêviez de ça, ça transportait quelque chose en vous. Ça existe encore dans l'âme d'un jeune homme de 22 ans, les États-Unis et le boulevard du crépuscule. Enfin, ce genre d'image complètement figée et éternelle.
Non, ça j'en avais vraiment aucune. J'avais aucune de ces images. J'ai jamais entendu parler de Rodeo Drive. Je connaissais Beverly Hills de rumeurs. Je connaissais Sunset Boulevard comme ça. Peut-être que je l'avais vu dans un bouquin, mais il doit y avoir des Sunset Boulevard dans toutes les villes des États-Unis. Donc c'était peut-être même pas celui-là. Non, alors j'étais pas du tout. Je m'attendais vraiment à rien.
Et vous avez été comblé, j'imagine.
Ah, au niveau émotion, là j'ai dégusté. Ouais, là c'était.
Mais il n'y avait pas rien. Mais rien de tangible, rien d'extraordinaire. Parce que là, il y a des amours dans votre livre, il y a des choses, il y a des moments sensuels, il y a des moments d'alcool, il y a des moments dépravés. Mais vous êtes comblé par ce rien parce que vous sentez qu'il n'y a pas suffisamment pour tenir la route.
Ouais. Ouais, bien sûr, bah il y a toutes sortes de remplissages. Je crois que tout le bouquin s'articule aussi autour d'une je l'ai pas voulu, c'est pas un roman à thèse, c'est venu comme ça, mais autour d'un questionnement sur le spectacle, sur l'illusion qu'on se crée, sur les petites choses comme ça qu'on s'invente pour tenir le coup, les succès d'année. On a appelé ça paradis artificiel, c'est pas vrai, ça c'est un peu de la, voilà, c'est pour être anti-drogue, c'est à la mode, mais bon, non, mais toutes ces illusions, et finalement au milieu du bouquin on arrive à Trona où il y a plus d'illusions, alors que je décriais les grands spectacles hollywoodiens, je disais mais ça c'est n'importe quoi, c'est des conneries de se mentir comme ça, et puis tout d'un coup j'arrive à Trona, je dis non mais c'est quand même vachement bien, parce que là il y a plus rien quoi là. Et bien sûr après c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans ma vie de façon assez quotidienne. Et le problème du manque de sens, c'est pas juste une pause. Alors ça peut être une pause estudiantine, ça peut être une pause artistique, se dire rien n'a de sens, et puis on bouffe 2-3 chocolats, et puis on allume une cigarette.
C'est pire, ça peut être pire qu'une pause, c'est pratiquement, ça peut devenir une posture.
Oui, voilà, exactement, voilà, une posture, oui, et puis après on peut faire une carrière là-dessus, ça se fait aussi, et puis alors après, attention, là, d'un coup, on a plus l'impression que les choses sont privées de sens, mais là, je crois que c'était vraiment ressenti, c'était encore à Los Angeles, je me disais, tiens, les choses ont un sens, et les gens le voient, et puis après, je suis arrivé à Trona, et puis non, là, il n'y avait plus, et puis il y a aussi eu, entre-temps, j'ai pris des champignons hallucinogènes aussi, c'était pas pendant le voyage, ça aurait fait trop cliché. C'était en rentrant. Et ça vous donne une perception. C'est pour ça que les histoires de paradis artificiels, c'est complètement con. C'était un paradis extrêmement réel. Enfin, paradis, non, c'était un enfer positivement réel.
Bon, si on vous avait donné des bolets ou des morilles, ça aurait pas été aussi extraordinairement naturel. Et puis, juste assez naturel pour que ça soit pas assez extraordinairement artificiel.
Oui, exactement. Puis on tombe pas forcément malade. Moi, j'ai aussi chopé des chiasses avec des copains chevelus. Je peux vous dire, il y a pas que les champignons hallucinogènes. Mais évidemment, ça donne quand même un éclairage assez terrible, une espèce d'absence de sens comme ça qui vient, une espèce de désespoir. Et c'est aussi ce que j'ai retranscrit parce que ce livre a été réécrit en entier 3-4 fois. Et dans ses dernières versions, il y a cette expérience-là qui est venue s'ajouter à celle du voyage, qui s'est plaquée. Et tout ça rentre dans la catégorie de l'expérience. Ça rentre dans ce qu'on peut appeler l'expérience, et c'est pour ça que je crois que ça a donné quelque chose comme ça d'un peu, je veux pas dire de désespéré, je crois pas que c'est un roman désespéré, rien que la manière dont il est écrit, c'est un style très vivant, donc je pense pas que c'est du tout quelque chose de c'est pas une flagellation, c'est vraiment un constat, par moment il n'y a pas de sens, puis par moment il y en a, quand on aime, il y a du sens.
On pourrait dire un lucide roman.
Ou un roman lucide, je sais pas, c'est lucide.
Ouais, pourquoi je sais pas pourquoi je l'ai mis à l'envers, mais un roman lucide, ouais, c'est ça, une sorte d'imprégnation, de réalisme, et en même temps, il en sort toute la poésie que vous avez quand même vécue, parce que vous avez aimé cette poésie sur place.
Bien sûr, et il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. C'est pour ça que j'apprécie que vous ne voyez pas qu'un constat extrêmement noir des États-Unis ou une espèce de comme si je flinguais ces gens-là. Ou c'est pas du tout le cas. Il y a une poésie, oui, il y a quelque chose. Il y a aussi un amour. On a passablement parlé ces derniers temps de ma cousine qui n'est pas réelle d'ailleurs, qui est une cousine que j'ai de la famille, mais c'est de la famille éloignée, d'une cousine qui est dans le roman, qui est un personnage monté de toutes pièces.
On m'a dit, Clara.
Voilà, la Clara, on m'a dit que j'étais un peu mauvais avec. C'est vrai que je suis pas tendre, mais en même temps, il y a quand même, oui, il y a quand même, bah, justement, une certaine tendresse. Il y a quand même un regard presque amoureux sur cette femme. C'est triste. C'est un constat que je fais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce livre, sans que ça devienne dégoulinant à l'eau de rose. On se fait chier. Enfin, le truc qui nous tombe des mains avec toutes sortes de becs qui s'échangent, des baisers volés ou je sais plus, des machins incroyables. Là, je crois que c'est assez brut. Assez rude, ça martelant. La table continue de trembler, j'en excuse. Mais malgré tout, assez tendre.
Bon, alors elle est anti-alcool, bah tant mieux pour elle. Et puis, elle a des copines.
Elle est anti-cul, Clara.
Ouais, aussi. Puis ses copines, elles sont anti-alcool,
etc. Ouais. Les autres sont anti-drogue, les autres sont anti-ci, anti-ça.
Ils sont anti-tout quand même, beaucoup, les puritains américains. Ils sont quand même agaçants.
Ouais, mais il n'y a pas que, parce qu'après, il y a aussi du puritanisme qu'on retrouve, vous pouvez tomber dans une partouze où il y a encore du puritanisme, mais qui est une toute autre échelle, il y a toutes sortes de puritanismes qui sont superposés, de choses qu'on
a pas. Le puritanisme dans les partouzes, je me demande comment ça se représente.
On peut avoir le peur d'exprimer tel avis ou aller. Pas seulement sur le point que vous avez dans le cul de je sais pas qui. Ça peut aussi être sur. Ça peut aussi être quelque chose de. Il y a des consensus comme ça, par exemple. Welbeck, dans une de ses nouvelles, il parle du consensus de Prévert, le poète Prévert. Alors, on n'a plus le droit de dire que c'est un crétin, que c'est un mauvais poète. Alors, ça, c'est aussi un consensus. Il y a des consensus comme ça qui s'installent au milieu de partout extraordinaires.
Alors, on écoute, pour se changer les idées, parce que vous êtes un peu déluré, les Beach Boys, qui vont se reformer, d'ailleurs, là, c'était en 64, The Girls on the Beach, mais là, ils vont se reformer en cette année 2012 et produire un nouvel album pour les 50 ans de leur carrière, les Beach Boys.
Yeah.
C'était The Girls on the Beach, les Beach Boys. On a adoré ce groupe, ils sont vieillissants, mais ils reviennent, ils ressurgissent. Et puis là, pour parler d'Amérique, d'États-Unis, de Californie, mais surtout d'autres cultures, de confrontation avec Quentin Mouron, avec son roman, j'ai quand même du mal avec ce titre, mais je vais quand même le dire, parce que j'adore vous titiller, Au point d'effusion des égouts, paru chez Olivier Moratel. Alors ça, c'est quand même quelque chose, un livre qui paraît avec une banderole, Révélation, roman 2012. Et c'est Jean-Michel Olivier qui est quand même un critique et un écrivain non seulement apprécié, mais couronné de prix. Vous a lu en manuscrit et il vous a déjà décerné une sorte d'auréole et ça vous sert en banderole à vendre, à signaler le livre en tout cas. C'est pas un peu trop, à 22 ans, d'être à ce point-là remarqué pour un bouquin qui est évidemment, certes, est très bon, mais propulsé trop, réaction ?
Bon, moi j'ai toujours aimé montrer mon cul, donc ça me dérangeait pas. Après, c'est des choix.
Mais vous êtes d'un gonflé.
Après, ce sont des choix purement éditoriaux. Moi, j'ai pas du tout de mainmise là-dessus. Alors, j'ai acquiescé, c'est tout.
Ouais, mais ça fait plaisir. Ouais, c'est-à-dire que c'est quand même des gens de référence qui trouvent quand même que votre travail a été un beau travail et achevé. Et surtout qu'il y a un ton dans votre écriture.
C'est vrai que j'ai été choyé. Il y avait eu Jean-Michel Olivier, il y a eu Jean-Louis Kuffer. Il y en a eu d'autres aussi qui ont comme ça, Christian Sioka d'Espace 2, qui ont comme ça été très, très enthousiastes sur cette écriture, sur ce livre, et surtout ce que j'ai trouvé très touchant, pas seulement sur ce livre, mais aussi sur les autres à venir, enfin sur l'auteur en lui-même. Donc c'est pas juste un bouquin ou alors ce qu'on aurait pu, c'est vrai, j'ai 22 ans, puis on aurait pu prendre ma gueule comme ça, en retouchant, ça peut donner quelque chose de pas mal, et puis un peu comme on vend des pop stars, on les fabrique, on les emballe et puis on les balance dans l'univers de requin, du show business et puis l'univers un peu plus tendre, médiatique. Et
comment il s'appelle ce chanteur de 16 ans aux États-Unis qui fait un tabac dans le monde entier qui s'appelle Justin ou je sais pas quoi?
Bieber, oui, c'est un type très bien d'ailleurs.
C'est un peu vous.
Vous voulez le répéter?
Non, mais c'est alors. Doit-on parler de génie ? Autrefois, on parlait, d'écrivains spontanés. Il y a eu des gens à 16 ans qui écrivaient des chefs-d'œuvre, etc. C'était rare. Alors, on les encensait, évidemment. Il y en a eu 2-3. Aujourd'hui, il y en a moins. Mais c'est un peu ce qu'on vous accole comme étiquette au départ de votre carrière.
Ouais, mais c'est encore plus rare que les vieux écrivent des bons livres. Je veux dire...
Le salaud.
Mais non, mais je veux dire, c'est pas... Bien sûr que c'est une étiquette, mais moi ça va, je préfère être comparé à... dans les petits jeunes, j'aurais préféré Rimbaud, mais c'est pas...
Que Justin Bieber.
Mais bon, parfois c'est...
Vous êtes la Britney Spears suisse romande de l'écriture.
Voilà, exactement, oui, je crois que c'est une belle image, ouais, je sais pas, je suis peut-être moins toxique, mais...
Mais vous écrivez des choses assez incendiaires quand même. Il y a des phrases quand même torses et vous êtes méchant. Alors, c'est quoi qui vous... C'est votre père artiste qui vous a donné un regard particulier sur la vie des autres. C'est une atmosphère, je peux imaginer, familiale, où on est critique avec le monde. Mais en tout cas, on ne reçoit pas le monde tel quel, on le passe à la moulinette.
Oh, ma mère aussi est assez rude, donc on doit le cimer. Hein, mais oui, il y a peut-être ça, c'est peut-être une question d'éducation. C'est vrai que... en vivant sur plusieurs endroits différents, mais en perspective beaucoup de monde, on se met à avoir un regard critique sur les gens. Et puis, j'ai assez vite découvert que j'étais pas du genre à être d'accord. Alors, des fois j'acquiesce, mais je suis pas tout le temps d'accord. Je suis déjà rarement d'accord avec moi-même, donc vous voyez. Donc en effet, après, il y a une contestation qui vient naturellement. Ce qui n'est pas une contestation, forcément, je suis pas, ça veut pas dire que je suis d'accord avec rien. À chaque fois qu'on me dit quelque chose, c'est pas un pain dans la gueule à chaque fois. Mais c'est, je pense, une attitude critique, une attitude vitriolée, quelque chose qui j'aime bien écrire comme ça, de façon assez, assez abrasive, corrosive.
Ça marche comment avec les filles ?
Oh, ça marche jamais bien avec les filles. Enfin, je sais pas si quelqu'un peut dire que ça marche bien avec les filles. Non, ça marche pas si mal.
Alors j'aimerais, pour décrire un peu qui vous êtes physiquement, je trouve que vous ressemblez un peu, mais évidemment avec pratiquement 20 ans de moins. Il enlève ses lunettes, mais quel diva. Il ressemble à Benjamin Cuche. Mais on vous a déjà dit une chose pas aussi ébouriffante que ça, après Justin Bieber.
Je vois pas qui c'est.
Oh, mais Cuche et Barbeza, vous savez qui c'est?
Ah oui, non, on m'a pas dit ça. Mais j'en ai eu plusieurs. À qui on m'a dit que je ressemblais? Bon, les vendeurs de bagnoles aux États-Unis trouvaient des stars américaines à me refiler pour que j'achète leur machine. Quoi. Dans celle-là, j'avais l'air de Brad Pitt, dans l'autre de Johnny Depp. J'avais l'air un peu de tout le monde. Après, non, on m'a dit qu'il y a pas longtemps, on m'a dit quelqu'un, je sais plus qui. C'était pas Travolta en tout cas.
Ça devait pas être Evelyne Widmer-Schlumpf, certainement. Alors, c'est le début d'une carrière, d'après vous, ce premier écrit qui paraît et qui fait quand même un petit tabac local, c'est le début de quelque chose, d'une conscience de l'écriture et l'envie de continuer?
C'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question, je me suis remis à écrire un machin parce que bon...
Vous appelez ça un machin, ça s'appelle un manuscrit.
Oh, ça sera un manuscrit quand il sera terminé. Là, pour l'instant, c'est encore une explosion. Non, ça a été... Comment dire, on a l'impression que je viens de recommencer quelque chose, mais c'est pas vrai, parce que le bouquin, quand même, celui-là, a été fini d'écrire en septembre, fin août, même mi-août. Donc, j'ai pas perdu mon temps, j'ai continué à écrire, j'ai repris ma plume, puis j'ai continué. Là, je sais pas vraiment où je vais, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'arrêterai, je vais peut-être faire ça encore un moment, je partirai après une année ou deux, je vais encore écrire des choses, puis après, je verrai, quand j'en aurai plein le cul, j'arrêterai. Enfin, je vais pas continuer, c'est pas une espèce de sacerdoce que je me traînerais ou de destin, moi je crois pas au destin. Si on y croit, peut-être qu'on a une autre perception, moi j'y crois pas, donc je vais continuer, on verra bien, puis peut-être que on sait pas ce qui peut arriver.
Non mais vous êtes un artiste ou pas? Parce que votre père l'a su et on a vécu, et il en a relativement bien vécu. C'est-à-dire que être un artiste, c'est quand même rentrer, vous disiez sacerdoce, mais c'est pas par hasard. Vous serez quoi? Parce que là, étudiant, rigolo, 22 ans, boire des verres, des copains, écrire un livre, le publier et avoir l'estime de tous les critiques, bah je sais pas, c'est quand même quelque chose de dessiné.
Alors pour l'avenir, je me pose pas de questions parce qu'on m'a déjà fait le coup. On m'a déjà fait le coup plusieurs fois. On m'a déjà dit que on m'a posé la question. Tu vas faire quoi? Mais tu crois? Puis je dis moi je vais écrire un livre. On dit moi tu t'arriveras pas à écrire un livre. Puis tu penses vraiment que tu peux faire ça? Puis alors là ça fonctionne, ça marche. Puis apparemment je me pose pas de questions. Je me suis pas posé. Mais je crois que ça m'a plutôt bien réussi. Et pour la suite, ça sera pareil. Moi je suis prêt à tout faire. L'avantage c'est que cette culture nord-américaine est quand même moins corsetée. On n'est pas obligé d'avoir une formation de 4 ans avant de commencer à mettre les mains dans la merde. On peut se présenter par ci, se représenter par là. Moi j'ai des potes maintenant qui vivent toujours au Québec, que je connais depuis toujours, et qui ont fait toutes sortes de choses, qui tous les 6 mois changent de boulot, qui en sont très heureux, qui sont des gens tout à fait bien, des gens très intelligents. J'ai pas du tout cette pression de la carrière, j'ai pas du tout je ne ressens pas du tout cette exigence d'entrer dans ce moule suisse-roman ou suisse ou européen de l'homme carriériste. Moi je crois pas. L'avantage c'est que quand on écrit un bouquin, on peut séduire sans avoir une grosse voiture, c'est moins cher. Alors j'ai pas besoin de ça.
J'ai pas besoin de gros instruments. Bah c'est très bien. C'est la réussite. Dans le fond, vous êtes décomplexé, vous en foutez complètement. Mais ça je le perçois chez vous, et je sens que vous avez une envie joviale d'exister, sensuelle, amusante, amusée, mais que rien ne se construit vraiment à 22 ans.
Donc vous savez, on m'a fait un reproche, c'était une remarque l'autre jour. On m'a dit, mais c'est drôle parce que je connais d'autres gens qui écrivent un peu, qui sont des artistes, qui font de la photo, qui peignent, qui sculptent, qui font ce qu'ils veulent. On m'a...
Comme vous les décrivez, comme vous regardez, vous les montrez comme si c'était des imbéciles finis. C'est génial.
Pas du tout, mais on m'a dit, mais eux, eux sont des artistes, ils ont des vraies poses, ils réfléchissent, ils parlent de choses sérieuses, ils divaguent, ils parlent d'esthétique, ils sont... Et puis pas toi, tu nous parles de bagnole, tu fais des blagues scatophiles, enfin, ça vient... Pourquoi on comprend pas, puis... Vous savez, c'est un peu comme le quand on est riche, mais d'une richesse un peu moyenne, un peu limitée, d'une richesse qu'on a eu de la peine à faire crasher. Bah, on s'achète une BM, on s'achète une belle Audi, on la bichonne parce que c'est tout ce qu'on a, il faut le montrer. Mais quand on est vraiment très riche, alors peut-être qu'on achète une Bentley encore, mais au bout d'un moment on se lasse et puis on achète une vieille Twingo pourrie et puis on parachève le snobisme. Moi je suis un snob essentiellement, c'est aussi pour ça que j'ai l'air décomplexé.
Avant de prendre l'air, si vous êtes d'accord, Quentin Mouron, on écoute Divine Idylle. Vous connaissez Vanessa Paradis quand même, vous qui avez vécu longtemps en Amérique du Nord?
Ouais, Gainsbourg disait Paradis c'est l'enfer, non, c'est quelque chose comme ça.
Et puis, et c'est Madame Johnny Depp, vous voyez qui c'est?
Oui, ça je vois, ouais, ça je vois bien.
C'est Jack Sparrow.
Aussi, ouais, ça j'ai moins vu, j'étais moins fan de l'histoire de pirates, mais...
Mais vous êtes gamin, mais pas assez. Alors c'est Divine Idylle, c'est Vanessa Paradis. Divine Idylle, c'était Vanessa Paradis. Avec Quentin Mouron, on quitte le restaurant de l'évêché. Là, il y a une série de pompiers qui viennent d'arriver. J'espère que ce n'est pas pour un incendie. Non, certainement pas. On va se déplacer et on va dans un autre lieu de Stam, Quentin Mouron. C'est une table. Où est la table? Quoi? Au table.
Ça s'appelle Au table. C'est un lieu dit, ça va peut-être se renommer au point d'effusion des égouts une fois, vu qu'il y a des égouts qui passent tout près et que ça pue, mais... Pour l'instant, c'est un peu là où je me saoule depuis 5 ans maintenant.
Mais arrêtez, vous n'allez pas faire la promotion de l'alcool et de l'alcoolisme dans cette émission. Vous avez 22 ans, vous êtes un sale gamin. Qui vous a appris tout ça? C'est la jeunesse doit se saouler pour vivre.
On n'est pas alcoolique pour se saouler. Après, c'est pas à moi de poser ces questions-là. Ça, c'est aux sociologues, ça, ils se démerdent. C'est leur problème. Moi, je les laisse en prise avec ce genre de mal du temps, comme on dit. C'est une sorte de prétention de trouver des mots du temps. C'est une espèce de voilà. C'est le côté un peu comment je dirais, un peu médecin qui sommeille en chacun.
Quentin Mouron, je ne me rends pas compte, vous êtes dynamique, joyeux, direct, etc. Je ne me rends pas compte si vous avez des vrais blues, si vous avez des vrais chagrins, si vous avez des angoisses sur l'existence. Vous êtes qui, quoi, par rapport à ça?
J'ai posté hier une phrase sur Facebook de Jacques Mercanton que je ne sais plus comment elle va. Je crois que c'est qu'un sourire peut cacher un... Qu'on a de la peine à croire malheureux quelqu'un qui sourit, ce qui est assez vrai, on a tendance à se... Je suis pas un grand malheureux, mais ça n'empêche rien, ça n'empêche pas d'avoir des espèces de mélancolie, ça n'empêche pas d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir des grands vides, des grands moments de solitude, d'avoir des grands moments de perte de sens, d'avoir toutes sortes de vertige, c'est pas, je crois que sourire c'est vraiment tout le monde peut le faire, je veux dire il faut être vraiment de mauvaise foi pour tirer la gueule, bon, dans le métro c'est dur, je vais bien l'admettre.
Ah oui, l'autre jour je vous appelais dans le métro puis vous me disiez tout le monde fait la gueule et je... c'est juste un peu pénible, si jamais on pouvait se sourire ce serait bien, mais aussi quand on sourit aux autres, est-ce qu'on décroche pas les sourires qu'on attend d'eux?
Peut-être bien, en tout cas moi je souris très volontiers aux autres. Et j'ai aucun mal à le faire, bien sûr. Mais je sais pas, alors après ça c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas de mon domaine de compétence. C'est quelque chose de, bien sûr, sourire aux autres, voilà, l'autre le rendra, bon, peut-être bien.
Vous avez une angoisse sur la vie future, parce que là on est début 2012, on n'a pas arrêté de dire que cette année 2011 était déjà difficile, mais qu'en plus elle s'annonçait encore pire en version 2012, et que, ma foi, il faudra économiquement et politiquement et au niveau des guerres, etc., il faudra s'y faire, ce sera très très difficile. Là on est sous la cathédrale, le guet va peut-être annoncer l'heure dans un moment, c'est un endroit paisible, la Suisse est tranquille. Mais vous y pensez à ça? Vous êtes un inquiet, vous, un jeune homme de 22 ans?
Oui, je suis un angoissé. Je trouve très bien que vous me parliez d'économie et de politique, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à considérer les écrivains comme des espèces de 10 heures de belles histoires qui doivent nous détendre le soir, mais qu'on ne les interroge pas vraiment sur ce qu'ils pensent de l'actualité. Donc ça, je trouve très bien. Je vous jette des fleurs. Et c'est vrai que... oui.
Ça fait rien, de temps en temps, je les reçois volontiers, hein.
Oui, bien sûr qu'il y a une angoisse. Alors, et en Suisse, en plus, c'est particulier. On est là, comme vous venez de le dire, dans un endroit particulièrement privilégié, la vieille ville, tout se passe bien. Il y a des résonances quand même qui peuvent être assez hideuses. Jusqu'au bout du monde de ce qu'on fait maintenant, notre train de vie se répercute sur d'autres populations. C'est difficile parce qu'on est dans un grand... On ne peut plus faire de la politique locale où celui-ci défendait les ouvriers, l'autre défendait les paysans, celui-ci défendait ci, celui-là défend tel autre secte. On est dans ce monde global que décrit Pierre-Yves Ladore dans son dernier bouquin. Et
qui signe aussi votre préface. Hein.
Qui signe aussi ma préface. Et j'ai signé la sienne. On a fait un espèce de jeu comme ça. C'était très sympathique. C'est difficile de s'y retrouver. Et bien sûr qu'il y a des angoisses. Alors, moi, je ne me sens pas menacé pour ces prochaines années. Ce qui est peut-être ce qui me donne mauvaise conscience. D'ailleurs, j'ai souvent très mauvaise confiance. Moi, j'ai des fois l'impression.
Conscience, pas confiance.
Conscience, oui. J'ai très mauvaise conscience. Et j'ai des fois l'impression d'être couché sur un transat qui lui-même tient sur un tas de fumier. Alors, je ne veux pas rentrer dans une espèce de pause. Un jour, on discutait de ça avec Jean-Louis Kuffer, qui disait que Ramu écrivait que pendant la Première Guerre mondiale, les Suisses étaient encore pires. Ils faisaient tellement de soucis pour les Français qu'ils souffraient encore plus qu'eux. Alors bon, et Durand-Matt a dit aussi quelque chose comme ça. On en a discuté l'autre soir. Alors, c'est pas là. Je n'ai pas envie d'entrer dans cette flagellation qui serait un peu de mauvais goût. Il y a des gens qui souffrent infiniment plus que moi. C'est pas le problème. Et je ne crois pas j'essaye d'échelonner. Je ne suis pas en train de... Voilà. Cette souffrance-là, je la ressens malgré tout. J'ai une grand-mère qui chialote et qui pleure, même très sérieusement, chaque fois qu'il y a un séisme, chaque fois qu'il y a un attentat.
Et c'est comment ce verbe, chialoter ?
Chialoter, ouais. Je chiale, quoi. Enfin, elle pleure, quoi.
Oui, c'est joli. Vous aimez inventer des néologismes ou des mots qui n'appartiennent qu'à vous ?
Ouais, j'aime bien, ouais. Ah, ouais. Je suis obligé de le constater, il n'y a pas de substrat comme ça. Non, c'est vrai.
Alors, cette angoisse de la vie, elle paraît évidemment au point de fusion des égouts, ça c'est clair.
Des fusions,
j'ai dit.
Ah,
pas de fusion.
Voilà. Non, pas
oui,
de...
non, mais ça peut poser problème. Hein. On pourrait dire les deux. Hein.
On pourrait, oui, on peut, de toute façon, bien sûr.
Bon, c'est une phrase de
Antonin Artaud.
Oui, rien que ça.
Ouais.
Et vous n'avez pas trouvé un titre tout seul ?
Si. J'en ai trouvé plein des titres. J'en ai une page entière de titres.
Il y avait quoi comme titre à choix de ce roman qui...
Ça faisait très roman, suisse roman. Quoi. Il y avait L'Ouest à la verticale. Il y a eu Spam Dirge, qui est le titre d'une chanson de Skinny Puppy, grand groupe de rock industriel des années 80-90. Il y a eu plusieurs titres. Puis finalement, celui-là s'est imposé comme celui qui résumait tout. Quoi. À la fin du livre, je me suis dit, ça, c'est le titre qu'il faut. Eh, j'en démords pas.
Vous avez raison. Quand vous m'avez demandé conseil, j'ai dit « Oups, j'aime pas du tout ». Et puis j'ai bien fait parce que je suis un vieux. Les vieux, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi les vieux cons? Parce que vous connaissez des jeunes cons. Vous êtes si jeunes, forcément. Mais les vieux cons. Comment vous venez de dire?
Je connais plus de jeunes cons que de vieux cons. Bah, je connais plus de jeunes que de vieux. Je crois pas. Alors, si on parle des vieux cons, là, on peut les caractériser. Si on parle des vieux, c'est plus difficile. Mais vieux, je crois que vieux, c'est déjà quelque chose de négatif. C'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui ont. Et je connais un peintre qui doit avoir bientôt 8 ans de balai, Edgar Mabou, qui habite à Blenec, qui est encore un fou furieux incroyable, qui a un type génial.
Il fait des peintures épouvantables.
Elles sont très bien, ces peintures.
Oh non, mais vous aimez ça?
J'adore ça.
J'ai fait une émission chez lui en lui disant, mais c'est épouvantable ce que vous faites.
Eh ben, c'est une faute de goût, ça.
Ah oui, de ma part. Non, certainement de le dire.
Et puis le type, en plus, est
incroyable. Il est sympa comme tout.
Mais il est génial.
Mais il vend des trucs, des châteaux de Chillon aux États-Unis.
Bien sûr, il en a vendu. Oui, il était une chouette carrière. Il était à Phoenix, il était partout. Et quand on le regarde, moi, je vais des coups avec. J'avais pas l'impression d'être avec un vieux.
Alors il a plusieurs Porsche au garage, donc ça réussit.
Non, ça c'est faux. Ça c'est ce que disent les.
Ah, je les ai vus.
Ça c'est ce que disent les mémères de Blun. Il en a une.
Non, il en a une.
Il en a une. Et oui, c'est vrai. Bon, Antonio roulait en Rolls. Enfin, moi, j'achèterais pas de Porsche parce que après lui, il fait ce qu'il veut.
J'aime bien votre regard de travers. Sur la société d'ici, vous écrirez peut-être un jour, Quentin Mouron, sur les gens qui nous irritent, qui sont un peu pesants, qui sont un peu ennuyeux, ou alors formidablement géniaux. Mais je ne sais pas. Vous écrirez autre chose que je dirais, de l'exotisme à l'américaine?
Ah, mais je fais pas de l'exotisme. Je suis un auteur.
Non, peut-être.
Canadien qui écrit sur son voisin. Moi, quand je serai. Je pense que j'aime bien mettre un océan entre moi et mon sujet. Ça me permet de. Enfin, de moi et mon objet. Ça me permet d'avoir un peu d'air. Je vais faire, je pense, pareil quand je serai au. Si je vais au Canada comme je le caresse. Je pense que peut-être si j'écrirai sur un endroit en Europe et puis il y aura un océan entre deux. Je cherche pas à écrire sur tel lieu. Alors je vais visiter tel endroit puis après je vous amène à tel endroit. C'est vrai que la trame du prochain bouquin pour l'instant est projetée au Québec, mais ça pourrait être tout à fait ailleurs. Il n'y a pas de tentative ridicule d'imiter un parler québécois. Il n'y a pas de forme d'écriture un peu les accents qu'on aime bien. Quand on à la Balzac le faisait, c'était assez ridicule. Bon, moi je le ferais pas.
Merci de nous avoir reçus ce soir, Quentin Mouron. C'était un vrai plaisir. C'était refroidissant vers la fin. Mais ah qu'est-ce qui faisait bon avant minuit dans le bistrot
avant
de l'évêché
minuit, ouais.
Alors on se quitte avec un autre petit génie, parce que c'est un gars qui est chanteur originaire de Sion. Il vient de sortir un album, Jupiter. C'est un talent évident, nous dit François Piton. Il s'appelle Célien Schneider, A Better Lie.
Alors écoutons-le. Merci bien pour tout.
I was in front of you. You looked me in the eye. I knew it wasn't true. Your words just smell like wine. A better lie, I'm sure you'll try to find a better one for a better life. Which is your best excuse when it's you I accuse? In all those noisy bars you looked for better cars. A better lie, I'm sure you'll try to find a better one for a better life. You were mine before you spent so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite one. Have we had good parties? What about good memories? Questions are in one eye, answers in the other one. A better lie, I'm sure you'll try to find a better one for a better life. You were mine before you spent so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your friend. took me in deep. I knew it wasn't true. Yours just smelled like wine. A better lie, I'm sure you'll try to find a better one for a better life. You were mine before you spent so many nights with those guys. There are so many I could die, but it's fine. And I will take a chance to hear you say that I'm your favorite. To hear you say that I'm your favorite.
C'était Célien Schneider, on se quitte sur ce titre. Et ce sera minuit dans quelques minutes, les voitures vont passer et nous allons un peu trépasser à l'antenne. Nous nous ferons autre chose, nous irons dormir de part et d'autre. Et sous la cathédrale de Lausanne, il va être minuit dans quelques secondes. Bonne nuit et à la semaine prochaine. Bye bye, au revoir.